Et le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Quel avenir pour les 6 millions de réfugiés syriens? La France et le Liban sont à l'initiative. Paris pousse l'idée d'une conférence internationale pour réfléchir à leur retour. Elle pourrait s'organiser en janvier prochain à Beyrouth. Explication d'Éric Biegala au début de ce journal. Et puis dans la famille Al-Assad, nous nous intéresserons à Rifat. C'est l'oncle de Bachar, l'actuel président au pouvoir. Un homme rattrapé par la justice française qui s'interroge notamment sur l'origine de son patrimoine dans le Val d'Oise. Enquête à suivre de Benoît Colomba. Au Kenya, Uhuru Kenyatta réagit après le coup de tonnerre de la Cour suprême. De nouvelles élections sont organisées d'ici 60 jours suite aux irrégularités. Le chef de l'État sortant a accepté du bout des lèvres cette décision. Récit de Bruno Meyerfeld dans un instant. En France, le gouvernement éteint provisoirement la fronde des élus locaux contre la suppression des contrats aidés. Une partie des 150 000 postes seront finalement maintenus. 6 mois après la mise sur le marché de la nouvelle formule du Levothyrox, une première plainte arrive en justice. C'est une femme de 58 ans qui se plaint, comme des milliers de patients, des effets secondaires, nous l'entendrons. Enfin, c'est le monde de l'infiniment petit qui s'ouvre un peu plus à la science. Un tout nouveau laser à rayon X vient d'être inauguré en Allemagne. Sophie Becherel va nous présenter cette incroyable installation. La France et le Liban à l'initiative d'une conférence sur le retour des réfugiés syriens. Selon l'ONU, 6 millions de Syriens vivent à l'extérieur de leurs frontières depuis le début de la guerre civile, dont 1 million au Liban, ce qui représente 25% des habitants du pays. Pour Emmanuel Macron, ce retour doit permettre de stabiliser la Syrie et la région. Le chef de l'État s'est exprimé à l'Élysée cet après-midi après avoir rencontré le Premier ministre du Liban, Saad Hariri. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Anne.
Cette conférence pourrait se tenir à Beyrouth à l'horizon 2018.
Oui, la capitale libanaise pourrait en effet accueillir cette conférence, dit-on dans l'entourage du chef de l'État français. Mais pour le moment, rien ne semble véritablement arrêté. Il y aurait en tout cas une logique à réunir une telle conférence au Liban, l'un des principaux pays d'accueil des réfugiés syriens, avec la Jordanie et surtout la Turquie. Ce qui semble beaucoup plus hypothétique, c'est la thématique de cette conférence, le retour des réfugiés dans leur pays. Car il est évidemment une donnée de base qui reste une hypothèse, c'est que ces retours ne pourront avoir lieu qu'une fois le pays, un tant soit peu, pacifié. Or, on n'en prend pas le chemin. Les négociations sur les fameuses zones de désescalade, initiées à Astana au printemps dernier, et qui devaient reprendre début septembre, viennent d'être ajournées. Quant aux tables rondes onusiennes, qui portent, elles, sur une transition politique en Syrie, aucune date de reprise des pourparlers n'est pour le moment arrêtée. Si on prend l'exemple du Liban, la grande majorité des réfugiés qui s'y trouvent sont des sunnites, et on a du mal à imaginer qu'ils puissent revenir vivre dans un territoire plus ou moins contrôlé par le régime ou par le Hezbollah chiite libanais. À vrai dire, ces réfugiés-là ont souvent été poussé à l'exode par le régime de Bachar al-Assad lui-même. Et dans une interview au Monde publiée cet après-midi, ce vendredi après-midi, le Premier ministre libanais ne dit d'ailleurs pas autre chose, précisant qu'il se refuserait à renvoyer les Syriens chez eux tant que des conditions de sécurité minimales ne seront pas garanties, estimant que les réfugiés ne retourneront pas en Syrie tant que le régime restera en place. En revanche, la conférence des donateurs sur les investissements au Liban, également annoncée par Emmanuel Macron tout à l'heure, sera plus simple à organiser. Elle devrait se tenir à Paris, début 2018, réunir les grands investisseurs internationaux, dont la Banque mondiale et le FMI, et pourrait au moins aider financièrement le gouvernement libanais, lequel estime le coût cumulé du conflit syrien pour le Liban à quelque 18 milliards de dollars.
Merci Éric Biegala pour vos explications et votre analyse. Et puis j'ajoute qu'à Genève, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, estime que les positions du groupe État islamique seront reprises à la fin du mois d'octobre en dépit des difficultés. Il table sur une reprise crédible des négociations entre le régime et l'opposition afin d'organiser des élections libres dans le pays d'ici un an, reprise de ces négociations au mois d'octobre. Toujours concernant la Syrie, l'enquête du service d'investigation de Radio France s'intéresse cette semaine au détournement de l'argent public par la famille Assad. Bonsoir Benoît Colomba.
Bonsoir.
Vous signez cette enquête et vous vous êtes intéressé en particulier à l'oncle du président actuel, Bachar al-Assad. Il s'appelle Rifat al-Assad.
Oui, pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir sur le parcours de Rifat al-Assad, le frère de l'ancien président Hafez al-Assad. Dans les années 70, Rifat al-Assad, c'est l'homme à poigne du régime syrien qui tente de renverser son frère, mais c'est un échec. En 1984, il s'installe en France, où il est accueilli à bras ouverts et même décoré de la Légion d'honneur. Rifat al-Assad rend également service aux espions français, se souvient l'ancien responsable du renseignement à la DGSE, Alain Chouet.
soit il donnait des informations, soit surtout et plutôt il nous faisait bénéficier de son carnet d'adresses qui était tout de même important dans l'ensemble du monde arabe. Bon, en échange de quoi, effectivement, il a eu droit à un certain nombre de protections. On préférait le mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. Après, c'est une décision qui a été couverte par le politique, par l'exécutif, par la présidence de la République, le Premier ministre, qui ont donné leur aval à ce type de politique.
Un homme protégé donc et qui fait aussi des affaires. C'est un intermédiaire apprécié par la France dans de gros contrats de matériel militaire. Et c'est à ce moment-là, dans les années 80, que Rifat al-Assad se constitue un énorme patrimoine immobilier, évalué à plus de 90 millions d'euros, avec des hôtels particuliers dans les beaux quartiers parisiens, des appartements et même un château dans le Val d'Oise.
Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être rattrapé par la justice.
Oui, depuis 2014, le juge Van Ruynbeck enquête sur l'origine de ce patrimoine. Il remonte la piste de l'argent, notamment dans les paradis fiscaux. Les enquêteurs disposent de témoignages d'anciens dignitaires du régime syrien, comme l'ancien ministre de la Défense Mustafa Atlas. Écoutez ce qu'il disait aux enquêteurs le 13 juin 2016, son témoignage est lu par un journaliste.
Quand Rifat al-Assad est parti en 1984, il a vidé la banque centrale, ce qui représentait 860 millions de livres syriennes. Il a pris les palettes de billets et les a convertis en dollars au marché noir entre la Syrie et le Liban, mais il n'a pas pris l'or.
Mais ça ne s'arrête pas là, Benoît. La justice française soupçonne aussi Rifat al-Assad d'avoir détourné une partie du patrimoine archéologique de son pays.
Oui, c'est un Syrien, un citoyen syrien qui a saisi la justice française. Son grand-père était le maire d'un village dans lequel Rifat al-Assad aurait lancé des travaux en 1975 pour construire un aéroport militaire. Et voilà ce qu'auraient découvert les ouvriers du chantier en déplaçant à l'époque un énorme rocher. C'est l'avocat du plaignant syrien Joseph Braham qui raconte la scène.
Sous ce rocher, les ouvriers découvrent un trésor archéologique romain absolument sublime avec des statues d'hommes, de femmes, de chevaux à taille réelle en or avec des pièces d'or. Tout le chantier est bloqué et dans les heures qui suivent, débarque Rifat al-Assad en hélicoptère et qui s'approprie l'intégralité du trésor. Tous les Syriens se sont vus spoliés d'une part plus ou moins importante de leur patrimoine.
Et que répond à tout ça Rifat al-Assad ?
Eh bien, lui affirme que son patrimoine est transparent, que son argent provient principalement de la famille royale saoudienne. Quant aux accusations de trafic archéologique, ses avocats les jugent fantaisistes. Des règlements de compte politiques, estime l'un de ses fils, Siwar al-Assad.
Beaucoup d'ennemis politiques de Rifat al-Assad ont envie de porter ce genre d'accusation, principalement par frustration. Ils n'ont rien d'autre à dire. Vous êtes le bienvenu chez nous à n'importe quel moment de la journée. Vous ne verrez aucune statue originaire de Syrie, aucun trésor.
Et malgré ces démentis, l'enquête financière s'est récemment élargie à toute l'Europe, en Espagne, en Angleterre, mais aussi à Guernesey et à Gibraltar.
Merci Benoît Colomba pour cette enquête. Enquête à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr. On le disait tout à l'heure, les djihadistes perdent du terrain jour après jour. Hier, c'était la ville de Tal Afar dans le nord de l'Irak qui est tombée sous le contrôle des forces de la coalition internationale. Aujourd'hui, l'État islamique a été chassé de la vieille ville de Raqqa en Syrie. Les précisions de notre correspondant dans la région, Omar Waman.
En prenant le contrôle de la vieille ville de Raqqa, les combattants de l'alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis ont mis la main sur l'une des zones les plus fortifiées de la capitale autoproclamée de Daesh. Il aura fallu près de 2 mois d'intenses combats dans des ruelles étroites pour faire reculer les djihadistes qui ne contrôlent plus désormais que 40% de la ville. L'étau se resserre jour après jour sur ces islamistes ultra-radicaux qui se sont retranchés autour des principaux quartiers généraux de l'organisation terroriste au milieu d'une population prise au piège et estimée à 25 000 habitants. Le pire est à craindre pour ces civils utilisés par Daesh comme boucliers humains et qui se retrouvent à la fois sous le feu des engins piégés et des snipers des djihadistes et des frappes aériennes de la coalition internationale.
Les précisions d'Omar Waman. En Afrique, c'est une première dans l'histoire du Kenya et même du continent. La Cour suprême du pays a décidé de casser l'élection présidentielle du 8 août dernier. Conséquences d'irrégularités qui ont affecté l'intégrité du scrutin ont tranché les juges ce matin. Un nouveau vote sera organisé d'ici 2 mois. Cette nouvelle élection permettra au candidat déçu, Odinga, de retenter sa chance. Le chef de l'État sortant, Kenyatta, a dit respecter cette décision sans pour autant l'approuver, Bruno Meyerfeld.
Pour lui, c'est une véritable gifle. Ourou Kenyatta est apparu à la télévision en début d'après-midi, l'air abattu, le sourire forcé, courbé sur son pupitre. Le chef de l'État, pourtant si sûr de sa victoire, avait la mine des très mauvais jours. La Cour suprême a jugé que sa victoire n'était pas en accord avec les règles constitutionnelles du pays. Sans donner pour l'instant plus de détails, elle a ordonné une nouvelle élection qui doit donc avoir lieu d'ici 60 jours. Mais les défis au Kenya sont immenses. Il faut en urgence représenter de nouveaux candidats, réimprimer des bulletins et remanier la commission électorale. Tout ça pour procéder à un nouveau scrutin de meilleure qualité et plus transparent que le précédent. En l'état, cela semble être une mission impossible. Et beaucoup à Nairobi jugent déjà que Kenyatta et Odinga devraient essayer de s'entendre pour repousser de quelques mois le scrutin. Un scénario que personne n'avait envisagé.
Correspondance à Nairobi de Bruno Meyerfeld. 4 jours après le tir d'un missile nord-coréen au-dessus du Japon, la tension ne retombe pas. En Russie, Vladimir Poutine s'inquiète du conflit ouvert entre Washington, allié de Tokyo, et Pyongyang. Le chef du Kremlin met en garde contre un conflit d'ampleur dans la péninsule. Et puis, en Corée du Sud, le pays critique une étrange déclaration de son ennemi du Nord. Hier, Pyongyang a annoncé avoir condamné à mort 2 journalistes sud-coréens et leur éditeur. Ces reporters sont accusés d'avoir écrit des articles sur un livre jugé insultant par le régime de Pyongyang. Et ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord émet de telles fatwas visant la presse du Sud. Correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias.
Les journalistes et les éditeurs de 2 quotidiens conservateurs à Séoul ont commis le crime hideux d'avoir insulté la dignité de la Corée du Nord, assure l'agence officielle du régime. L'exécution sera menée à bien n'importe où, à n'importe quel moment et sans possibilité de faire appel, poursuit Pyongyang. Ces 2 journalistes s'étaient pourtant contentés d'écrire la critique d'un livre sur la Corée du Nord, intitulé « North Korea Confidential » et écrit par 2 correspondants britanniques basés à Séoul. L'ouvrage raconte comment l'économie de marché, la corruption et l'accès à des informations venues de l'extérieur transforment profondément la société nord-coréenne. Le livre est sorti il y a 2 ans, mais c'est la publication récente d'une traduction en coréen qui semble provoquer la fureur de Pyongyang. Le titre coréen « République capitaliste populaire de Corée » détourne le nom officiel de la Corée du Nord, tandis que le dessin de sa couverture parodie son emblème national, un dollar remplaçant l'étoile rouge. Les 2 auteurs du livre, bizarrement, semblent être épargnés par la vindicte du régime. La Corée du Sud a fortement condamné la déclaration nord-coréenne et a promis de défendre la sécurité de ses ressortissants. Séoul exige du Nord qu'il cesse ses menaces, menaces qui, ouvrez les guillemets, n'aident pas à améliorer les relations intercoréennes. En 2012, Pyongyang avait déjà promis de bombarder des médias sud-coréens en raison de reportages jugés insultants. Le régime avait même rendu public les coordonnées GPS des rédactions qu'il souhaitait détruire, heureusement sans passer à l'acte.
Correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias. En France, le gouvernement désamorce la crise des contrats aidés. Les maires ont obtenu des garanties auprès du gouvernement pour conserver une partie des 150 000 contrats qui ne devaient pas être renouvelés d'ici la fin de l'année. Devant la menace de dizaines de communes de reporter la rentrée, une réunion s'est tenue ce matin avec Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et le cabinet du ministère du Travail, le compte-rendu de Solène Lehen.
Le gouvernement ne donne pas de chiffres précis, d'enveloppes précises. C'est aux communes de se rapprocher de leur préfecture pour obtenir une rallonge et conserver une partie des emplois aidés qui devaient être supprimés. François Barouin, président de l'Association des maires de France, à la sortie de la réunion.
Normalement, les préfets dans chaque département doivent être informés de ce qui se passe, c'est-à-dire plus de souplesse, ce que l'on appelle de la franchibilité, c'est-à-dire la possibilité de passer d'un crédit budgétaire à un autre dans un cadre dérogatoire au droit commun. L'État va regarder au cas par cas. Les préfets auront l'obligation d'être à l'écoute des maires pour régler ces situations particulières.
Du cas par cas, entendez, les maires qui auront satisfaction seront ceux qui sauront le mieux négocier. Pierre Monzani de l'Assemblée des départements de France.
C'est au maire qui présentera les situations les plus urgentes et les préfets qui décideront et qui jugeront de cette urgence.
Pour de nombreux maires, la rentrée scolaire est sauvée. Certains sont déjà d'ailleurs revenus sur leur décision d'annuler la rentrée en signe de protestation. Mais beaucoup s'interrogent sur la suite, car sur le long terme, les contrats aidés semblent condamnés.
Les précisions de Solène Lehen. Au lendemain de la présentation des ordonnances qui permettront de réformer le Code du travail, c'était la première sortie publique pour le Premier ministre Édouard Philippe. Il a inauguré la foire de Châlons en Champagne dans la Marne aujourd'hui. Et c'était l'occasion de tâter le terrain, Yannick Falt.
Édouard Philippe a droit à un comité d'accueil, une cinquantaine de syndicalistes. Mais la visite se déroule sans accroc. Elle commence comme il se doit par l'inauguration de la foire.
Et voilà.
2 heures de visite aux côtés de son ami, le maire de Chalon, Benoît Apparu. Édouard Philippe prend son temps. Il est interpellé 3 fois sur la réforme du travail, ici sur le stand d'un CFA.
Hier, moi, j'ai présenté des ordonnances sur le droit du travail. Ça a permis d'avancer sur le volet flexibilité.
Là, par des syndicalistes.
S'agissant de ce que vous évoquez, il y a effectivement un dispositif de fusion des instances représentatives du personnel. Mais d'abord, pas simplement pour le plaisir de fusionner, pour permettre que dans l'instance unique, il y ait une discussion qui traite tous les sujets.
Et là, par un chef d'entreprise.
Bravo, il faut aller dans ce sens-là. Les chefs d'entreprise, des petites entreprises comme les nôtres, on a besoin d'appel d'air.
Un chemin pavé de rose dans ce salon très sécurisé. Édouard Philippe célèbre l'événement. Bilan, 2 champagnes goûtés, 1 Bourgogne, 2 Rhum et 1 Premier ministre tout sourire.
Je bien rester pour boire une bière, mais il paraît qu'il faut que je m'arrête plus.
Reportage signé Yannick Falt. MJ Dalguerab, le député des Français de l'étranger pour le groupe La République En Marche, se met en congé du parti présidentiel. Il l'a annoncé sur son compte Facebook cet après-midi. Le député est accusé d'avoir blessé à coups de casque de scooter un cadre socialiste, Boris Faure, mercredi dernier. Il a été placé en garde à vue cet après-midi. En parallèle, MJ Dalguerab sera convoqué ces prochains jours par la direction du parti présidentiel pour s'expliquer et recevoir d'éventuelles sanctions. Au moins 170 000 personnes ont signé une pétition contre la nouvelle version du Levothyrox, le médicament qui traite les pathologies de la thyroïde. Ils accusent le nouveau produit d'engendrer divers effets secondaires comme des crampes ou encore des maux de tête. Pour la première fois aujourd'hui, une patiente a porté plainte à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Plainte déposée contre le laboratoire Merck pour mise en danger de la vie d'autrui. Cette femme dit avoir subi des problèmes de santé depuis le mois de mars dernier et la mise sur le marché du médicament. Véronique Julia a recueilli le témoignage de cette femme, Anne-Catherine Collin-Chollet.
En mars 2017, je vais à ma pharmacie et on me donne le Levothyrox. Je dis, tiens, la boîte a changé. Elle me dit, oui, la boîte a changé. Bon, je prends le médicament. 3 semaines après, j'avais des vertiges, j'avais une grande fatigue, j'avais mal à la tête, des courbatures. Tous les jours, j'étais pas bien. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mon mari est médecin, donc il dit, bon, ben, on va faire un bilan sanguin. Dans ce bilan sanguin, on voit que la TSH est complètement effondrée, ces hormones thyroïdiennes. Donc je me pose des questions, effectivement, il y a un problème. On était très bien avec le Levothyrox et on change ce Levothyrox. Non. Ben voilà, moi je dépose plainte, je voudrais avoir la vérité, je voudrais avoir des enquêtes sur le médicament. Moi j'ai gardé les différentes boîtes, hein, les anciennes, j'ai quelques cachets que j'ai retrouvés pour éventuellement... S'il y a des enquêtes qui sont faites, ben voilà, les médicaments, je les mets à la disposition. Qu'on arrête de nous prendre pour des billes. Hein.
Des propos recueillis par Véronique Julia. Le Conseil d'État s'est prononcé cet après-midi sur les silhouettes de Danemarie, cette petite commune du Haut-Rhin, accusée de diffuser des préjugés sexistes à travers une campagne d'affichage de silhouettes féminines. Contrairement au tribunal administratif de Strasbourg, les juges ont estimé que cette installation ne portait pas d'atteinte grave à la dignité humaine. C'est le collectif féministe des effrontés qui avaient initialement porté plainte. Enfin, il s'agit du plus grand laser à rayon X au monde, un instrument de recherche, fruit d'un consortium européen qui va permettre de sonder la matière vivante ou inerte au plus petit niveau. Il a été inauguré cet après-midi à Hambourg, en Allemagne, Sophie Becherel.
Enfoui sous terre dans un tunnel rectiligne de 3 km 400, le super laser à rayon X a nécessité 8 ans de chantier. Cet outil exceptionnel fonctionne de la manière suivante. On génère des électrons, on les accélère afin qu'ils produisent des photons, des grains de lumière. Les explications de Jean-Luc Biarrotte, responsable du projet pour le CNRS, l'un des partenaires de ce grand projet européen.
Ces électrons sont accélérés sur 2 km jusqu'à une énergie de 17 milliards d'électronvolts. Donc vous voyez, c'est 17 milliards de volts que l'on met en quelque sorte comme tension pour accélérer ces particules. Et on les fait ensuite onduler dans des objets très complexes, qui s'appellent d'ailleurs des onduleurs, et qui permettent de produire donc des particules de lumière dans le spectre X.
Au final, la machine fournit des flashs lumineux hyper courts, 27 000 flashs par seconde. Et à la manière du cinéma qui donne le mouvement en 24 images par seconde, ce laser permet d'obtenir le film des atomes en mouvement. Emmanuel Lacaze, de l'Institut des nanosciences de Paris.
C'est vraiment la matière qu'on étudie en chimie, en physique, en biologie, donc finalement c'est très large. Et en biologie, c'est extrêmement utilisé pour obtenir la structure des molécules biologiques. Donc du coup, on voit comment la molécule évolue, change de structure.
Photographier des virus en trois dimensions, comprendre ce qui se passe quand un matériau isolant devient conducteur, autant de phénomènes que pourra dévoiler ce laser XXL.
Les explications de Sophie Pécherel. La météo de votre samedi matin, nuageux et pluvieux dans la moitié est et en Occitanie, temps ensoleillé sur les bords de la Méditerranée, les températures 16 à Strasbourg et Cherbourg, 17 à Lille, Paris, Bordeaux et Lyon et 21 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun, à la technique c'était Jean Frédérix.